C'est pour le Moyen-Âge. Après, j'imagine qu'au 19e, qu'au 18e, lorsque dans la campagne, on avait encore une pièce éclairée dans la maison, dans la ferme, c'était pour veiller quelqu'un qui était gravement malade ou qui venait de mourir. Les bougies coûtaient cher, donc on se levait avec l'aube et on se couchait au crépuscule. Donc si l'on garde une lumière susceptible d'attirer une chouette, c'est qu'il y a quelqu'un de très malade. Et si la chouette ulule dans le parc, dans le jardin, dans la forêt, au moment où quelqu'un est en train de mourir dans la maison, si on est un peu superstitieux, on peut avoir l'impression que la chouette est un oiseau qui porte malheur. Mais d'un autre côté, si on a allumé des bougies parce qu'une maman est en train d'accoucher et qu'elle n'a pas choisi son heure, et que la chouette se met à ululer, eh bien elle annonce une naissance. Voilà. Donc on prend bien les histoires qu'on veut, et en attendant, voilà la petite chouette sur le haut d'une cheminée. En fait, c'est au XVe siècle que l'on va un petit peu délaisser toutes ces superstitions et toute cette symbolique pour commencer à représenter les animaux dans leur milieu en se disant que l'homme fait partie de la nature. Pardon, j'ai fait rouler le truc. Et à gauche ici, vous avez une image qui, pour les spécialistes de l'art au Moyen-Âge, est considérée comme une des toutes représentations des animaux dans leur milieu. Pas pour y associer des symboles, mais vraiment pour représenter la nature telle qu'elle est dans le parc d'un châtelain. Ce qui renouvelle un petit peu les images classiques de l'Arche de Noé. Là, c'est vraiment donc, les animaux dans leur milieu. Il n'y a pas forcément de symbole à y trouver. Il y a juste voilà, la petite chouette ici, qui pour le coup n'est pas associée à un symbole bien précis, mais remise dans son milieu. Mais ça, c'est le 15e siècle, on est à la fin du Moyen-Âge, les mentalités changent un petit peu. Pour les paysans, les oiseaux, c'est pas forcément une source de symboles ou d'exégèse, c'est d'abord leur quotidien. Et lorsque je me suis intéressé aux oiseaux du Moyen-Âge, alors pour tout vous avouer, j'ai même écrit un fascicule sur le sujet, c'était aussi pour essayer de deviner quelle pouvait être la biodiversité à l'époque. Je ne sais pas vous, mais je suis assez frappé quand je circule dans la campagne, dans les champs, dans les vignes, du silence qui y règne, de la pauvreté en oiseaux que l'on peut y rencontrer. Un ou deux faucons cresserelles, une ou deux buses, des corbeaux, des pigeons, un faisan qui a échappé aux chasseurs. Bon, c'est à peu près tout. Même si on descend de la voiture, on ne va quand même pas trouver une énorme volée de diverses espèces. Je trouve que c'est finalement assez beau. On observe davantage d'oiseaux dans mon jardin ou en ville que dans les campagnes. Eh bien, au Moyen-Âge, ça avait l'air d'être quand même relativement différent. À tel point qu'on trouvait facilement qu'il y avait trop d'oiseaux. Et dans cet ouvrage, ici, vous avez une scène quand même assez originale. On a demandé à des jeunes gens de se cacher dans un buisson, de sortir, enfin de tenir à bout de bras des espèces de bâtons qui peuvent se resserrer lorsqu'un oiseau se pose dessus. Donc lorsqu'un oiseau se pose sur l'une des deux baguettes, on rapproche les deux baguettes et ça pince l'oiseau. Bon, je n'ai jamais essayé, c'est pas mon genre. Mais je soupçonne que si l'on essayait dans nos campagnes, on pourrait s'ennuyer assez longtemps avant d'arriver à en attraper un. Alors en l'occurrence, on conseillait d'ajouter une chouette parce que précisément les oiseaux ont l'habitude de venir houspiller les chouettes. Ça, c'est un fait scientifique qui n'est pas si fréquemment observé, mais enfin qui existe quand même. Donc voilà, je me dis qu'au Moyen-Âge, pour arriver à imaginer ce genre de situation et à le représenter comme étant un fait établi, il devait quand même y avoir une multitude d'oiseaux qui assaillaient les cultures et les villes. C'est vraiment une autre époque. On retrouve ça un petit peu à la cathédrale. où vous avez dans les frises que l'on peut voir sur les fameux portails de la façade ouest, vous avez, avant le déluge, Adam et Ève bénéficient d'un paradis où il y a des grappes de raisins que viennent picorer les petits oiseaux. Et après la faute originelle, le raisin disparaîtra et les oiseaux aussi. Vous pourrez suivre la chronologie de la frise. C'est Prudence de Saragosse qui disait: les oiseaux sauvages picoteront et déchireront les grappes. Toute représentation à son origine dans les textes. Donc voilà. Peut-être bien qu'au Moyen-Âge, il y avait beaucoup plus de petits oiseaux qu'aujourd'hui. En tout cas, jusqu'au XIIe siècle, et il se pourrait qu'après, en ayant un peu détruit les forêts pour installer des cultures, la biodiversité ait diminué. Mais pour en revenir aux rapaces, là, c'est un massacre beaucoup plus systématique qui a été organisé. Là, ce sont des photos, d'accord, on n'est plus au Moyen-Âge. On a massacré les rapaces pour des raisons. Ils sont censés manger des lapins, ils sont sept malfaisants, ils sont censés être des concurrents, des chasseurs, que sais-je. Ils sont censés aussi être grands, et donc peut-être que ça valorise les chasseurs d'en attraper. En tout cas, vous voyez, on n'hésitait pas à poser fièrement devant tout un tas de cadavres de grands rapaces. Ici, c'est une photo qui date de l'entre-deux-guerres. Vous avez également un chasseur qui vient d'attraper un rapace qui est un gypaète barbu qu'on a réussi à réintroduire en France il y a quelques années, qui maintenant est tiré d'affaire. Mais au XXe siècle, il a fallu protéger de façon très volontaire les rapaces qui avaient, pour certaines espèces, largement disparu de nos campagnes et de la France tout entière. Donc je ne vais pas trop insister là-dessus, mais on pourra développer si vous le souhaitez. Pour quand même vous remonter le moral, si j'ai réussi à vous casser un peu l'ambiance, enfin, l'été dernier, en 2023, il y a un rapace extrêmement rare en France qui n'a pas trouvé mieux que de nicher dans une propriété privée en Sologne du Loir-et-Cher. C'est plus grand qu'un aigle, c'est le pygargue à queue blanche. On peut en voir de temps en temps quand on a beaucoup de chance, mais en l'occurrence là, il s'est arrêté en pleine forêt, il a fait des petits, il y a un petit qui s'est envolé. Voilà, les rapaces reviennent à force de les protéger. Ce sont des oiseaux qui arrivent petit à petit à recoloniser les régions où ils avaient disparu. Autre fond de chasse, et là, si vous connaissez bien la cathédrale, vous voyez où je vais en arriver, c'est la fauconnerie. Donc les rapaces, on s'y est intéressé, pas seulement pour la symbolique, mais également pour jouer avec. Alors depuis des siècles et des siècles, mais disons qu'en France, utiliser des rapaces pour chasser est devenu un passe-temps des nobles essentiellement à partir du XIIe siècle et jusqu'à l'époque où on a trouvé qu'avec les fusils, c'était quand même plus rentable et moins compliqué. Et donc pendant une bonne partie du Moyen-Âge, on a donc chassé à l'aide de rapaces. Bien sûr, ça se fait encore aujourd'hui. Alors voilà une photo relativement rare, puisqu'elle représente des chasseurs qui utilisent des aigles pour chasser. Or, l'aigle est un rapace donc assez lourd et ce n'est pas très très pratique. Mais bon, ces gens du Kazakhstan utilisent le rapace emblématique de leur région et donc voilà, il y a une tradition à utiliser des aigles pour chasser des lapins, donc, après des manteaux de fourrure. Il y a également des fauconniers en France qui servent à chasser les pigeons dans les aéroports ou à faire des spectacles aux oiseaux de Beauval. Alors curieusement, ils utilisent rarement des oiseaux de chez nous, mais plutôt la buse de Harris, qui est un oiseau américain, mais fort sympathique. Et, voilà, ça fait des jolis spectacles. Après, peut-être qu'il ne faut pas trop essayer de savoir comment ils ont été dressés. Et nous voilà à la cathédrale. Alors, peut-être que vous reconnaissez ce vitrail. Hein. Donc c'est prodigue, donc début du XIIIe siècle. Et donc, sur ce vitrail, sur lequel je vais quand même insister un petit peu, on voit donc ce fameux fils prodigue qui a décidé d'utiliser l'héritage paternel pour vivre la grande vie en attendant un petit peu prématurément. Donc, au départ, c'est un seigneur qui est habillé de façon riche, qui s'en va sur son beau cheval avec un serviteur, et vous voyez que sur son camp, il y a un rapace, on va dire un faucon, je vais zoomer ici. Souvent, on coupe l'image en coupant ce petit trait blanc ici. Alors, cela dit, ce petit trait blanc participe à l'image, parce que le serviteur, j'appuie sur le truc, voilà, le serviteur ici, qui va aider le fils prodigue à chasser au faucon, ce serviteur donc a une grande perche. Et la perche sert à secouer les buissons devant le noble pour faire lever les oiseaux sur lesquels le noble va pouvoir lancer le faucon. Voilà, voilà, c'est toute une tradition avec des us et coutumes bien précis. Alors, quel peut être ce fameux faucon? On pense d'abord au faucon pèlerin. Vous me pardonnerez le jeu de mots, mais bon, voilà, un faucon pèlerin à la cathédrale, ce serait assez classique. Bon, l'étymologie du mot, hein, c'est père et puis grain. Je passe les étapes transitoires entre le latin et le français moderne. Mais père, grain, grain, les champs. Donc, à travers les champs, c'est un faucon qui voyage. Voilà l'étymologie du mot. Le faucon pèlerin, donc que voici dans un parc pour de la fauconnerie, c'est un chasseur absolument extraordinaire. Très rare à Bourges, j'en ai déjà vu une fois au plan d'eau. Il est également en expansion, mais plutôt à partir du massif central, des Alpes, des Pyrénées, un petit peu sur les côtes de Bretagne. Son site favori pour chasser, quand il est en liberté, ce sont des falaises. Alors il se met tout en haut d'une falaise et puis il voit en bas les pigeons passer en vol. Il ne va pas foncer sur eux parce que les pigeons, c'est pas si bon que ça. Si l'un des pigeons voit le faucon foncer sur eux, ils vont plonger dans les arbres et le faucon n'aura plus qu'à recommencer son affût. Donc lorsqu'on a l'occasion de voir la chasse complète, le faucon vole en direction de là d'où viennent les pigeons. Si les pigeons vont vers la droite, il va s'envoler vers la gauche. Il va faire demi-tour, il va se retrouver à voler derrière les pigeons. Et bien sûr, s'il veut rattraper les pigeons en plein vol, il doit voler plus vite que le pigeon. Il va donc accélérer. Il va accélérer à une vitesse qui dépasse celle de ma voiture, même si je voudrais crier les feux rouges et les péages. On donne des chiffres de 200 km/h en piqué. C'est-à-dire qu'à la fin de son effort, il replie les ailes. Il arrive donc à grande vitesse sur les pigeons. Et il arrive tellement vite que si vous avez quelques notions de physique, à cette vitesse-là, il va s'écrabouiller sur ses proies. Donc en fait, au dernier moment, il ouvre un peu les ailes pour freiner et attraper les pigeons. C'est quand même absolument extraordinaire. Alors cette prouesse, il n'est pas impossible qu'il le fasse de temps en temps dans les campagnes autour de Bourges, parce que je ne l'ai pas vu, mais il y en a au moins un qui est passé sur la cathédrale. Il a dû trouver que ça ressemblait un peu à une falaise. Bon, pas chasser les pigeons en pleine rue, hein, parce que là quand même, ça serait un petit peu compliqué. Peu après soit passé, j'ai trouvé bas à droite cette aile, donc une aile comme ça, posée au sol, au pied de la tour nord de la cathédrale. Et j'ai beau chercher, je n'ai qu'une possibilité pour identifier cette aile. Il semble bien que ce soit une aile de bécasse. Alors je vous défie de trouver une bécasse à Bourges, si ce n'est peut-être chez un chasseur entrant d'une journée faste dans la campagne, L'APK, c'est un oiseau assez discret, plutôt forestier. Donc, il faut penser que le faucon pèlerin a attrapé une bécasse dans la campagne environnante, dans une forêt, alors je ne sais pas, peut-être en Sologne, et puis il s'est dit, tiens, je vais faire une petite virée à la cathédrale, je serai quand même plus tranquille pour la manger. Voilà, enfin, chacun ses goûts. Et lui, voilà, 10-20 km dans sa journée, c'est rien. Alors, du coup, on se dit qu'il pourrait peut-être attraper des pigeons. Au passage, un groupe. C'est pas loin d'être possible. Au passage, je vous signale, je ne vais pas insister, mais le faucon pèlerin, c'est également la personnification, enfin, c'est également l'oiseau emblématique du dieu Horus, des Égyptiens. Et donc, notre ami faucon pèlerin niche sur certaines cathédrales. C'est déjà effectif, alors pas à Bourges, mais il est connu pour nicher à Strasbourg, notamment. Donc, je vous ai mis des images. Alors, on l'a un peu aidé, il faut bien dire. C'est-à-dire que, vous voyez, en l'occurrence, donc là, sur l'église Saint-Symphorien, il y a également la cathédrale de Strasbourg qui est conservée, si je ne me trompe. On a carrément installé un nichoir. Je ne suis pas sûr que les autorités seraient tout à fait ravies d'installer un tel promontoire sur la cathédrale, mais bon, il faudrait négocier. En l'occurrence, à Strasbourg, ils ont osé. Et donc, ils ont mis carrément une caméra pour pouvoir filmer les jeunes. Et donc, les parents chassent les pigeons en ville pour nourrir les jeunes. Voilà. Et dernièrement, alors il y a plusieurs villes comme ça, la toute première cathédrale sur laquelle des faucons pèlerins ont niché, c'est en Angleterre, à Salisbury, en 1864. Voilà. À partir de là, certains faucons pèlerins ont quitté leurs falaises pour s'installer sur les cathédrales. Donc, il y a Strasbourg, il y a Nancy, il y a Albi depuis quelques années. Et puis, voilà, il faut toujours actualiser ces conférences. 2023, je crois. Ouais, c'est ça, 2023. Il y a un couple qui a niché sur la cathédrale de Chartres. Voilà, alors lui, il n'a rien demandé, ni nichoir, ni rien du tout. Il s'est dit, tiens, pourquoi pas. Voilà. La fauconnerie. On sait qu'elle a été pratiquée à Bourges. Enfin, on en est à peu près sûr, puisque dans la poubelle de la grosse tour, on a trouvé, alors non pas cet oiseau-là qui a été utilisé pour une expo au muséum, parce que le faucon hombreux est un bel oiseau et qu'ils avaient une photo, mais en l'occurrence, c'est un épervier qui a été trouvé. Alors, est-ce que cet épervier avait été utilisé par les gens de la grosse tour, ou est-ce que c'est un oiseau qui était mort et qu'ils avaient mis à la poubelle avec les autres? Bon. Pas dire qu'il l'ait enterré avec de grands égards, puisqu'ils l'ont mis à la poubelle, mais on peut supposer qu'un épervier a été utilisé par donc les gens de la grosse tour, avant bien sûr qu'elle soit rasée, donc disons au Moyen-Âge, quoi, probablement. On a aussi des témoignages de fauconnerie dans le Berry, avec bien entendu la chasse représentée dans les très riches heures du duc de Berry, où là, en l'occurrence, c'est une dame qui pratique la chasse, et on a également un valet avec une grande perche qui va pouvoir lever les oiseaux devant. Alors, les auteurs qui se sont vraiment essayés à identifier les rapaces, ils reconnaissent des éperviers et des faucons. Bon, voilà. En tout cas, c'est l'image représentant le mois d'août, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Avec le château d'Étampes en arrière-plan, donc dans le calendrier des très richeurs du duc de Berry. Quelles sont les espèces? Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu les différents rapaces, donc je vous ai dit tout à l'heure, l'aigle, c'est le plus grand, mais du coup, il est un peu lourd. Plus bon. Faucon gerfaut, c'est pas un oiseau de chez nous, mais il est très grand, et du coup, on l'entraîne à chasser des grues. Le faucon sacre, pour les hérons, j'en ai parlé tout à l'heure. Le faucon pèlerin donc était utilisé plutôt pour chasser les perdrix. L'autour et l'épervier sont également utilisés, mais de façon moins valorisée. Et puis le milan, le busard, le faucon cresserelle, non, ils ont un mode de chasse qui n'a rien de spectaculaire, qui n'intéresse pas les fauconniers. Alors l'autour et l'épervier, c'est pas tout à fait comme les faucons. Voilà une femelle d'autour sur mon balcon. Voilà. Pardon, excusez-moi, une femelle d'épervier. L'autour mâles, c'est à peu près la même chose, mais en plus gros. Donc voilà une femelle d'éperger. Au Moyen-Âge, on a des textes qui racontent comme quoi il faut aller dans les nids d'éperviers en forêt, récupérer les petits pour pouvoir les dresser à la chasse, etc. etc. Donc l'épervier est l'une des espèces utilisées. Voilà également la même femelle sur mon balcon. Bon, je donne sur un parc avec une forêt pas très loin. Et là, c'est Madame Épervier en train de manger un merle du jardin, juste en dessous de la fenêtre de la cuisine. Je suis presque en conflit avec ma compagne lorsque l'épervier passe dans le coin, puisque ma compagne voudrait qu'on chasse l'épervier qui a tendance à tuer les oiseaux qu'on attire au balcon pour les nourrir en hiver. Donc elle culpabilise. Voilà. Et moi, pendant ce temps-là, je saisis mon appareil photo et je me dis à la prochaine conférence, il faudra que je le montre. Donc voilà, donc je prends mes photos et puis après je dis à ma compagne, tiens, il y a un épervier qui est passé. Voilà, ouais. Le mâle est plus petit. Alors voilà le mâle sur le balcon. Voilà. Là je me suis fait voir. Alors vous voyez, là il s'est mis sur le balcon pour regarder les oiseaux en contrebas. Puis là il s'est retourné en disant, quel est cet abruti qui est en train de me photographier. Mais bon, j'étais derrière la fenêtre. Comment chasse le faux? Comment chasse l'épervier? Eh bien, voilà, voilà. Alors, je n'ai pas la suite parce que c'est tellement rapide que mon appareil photo n'arrive pas à suivre. Mais donc, il est à l'affût, il va foncer sur ses proies, et ses proies, ce sont des oiseaux. C'est comme le faucon pèlerin, c'est un spécialiste des oiseaux, mais lui, c'est en milieu couvert. Donc, il va zigzaguer entre les buissons, c'est assez chouette à voir. Il peut se mettre à l'affût près d'un buisson et puis il plonge à l'intérieur du buisson. Je ne sais pas comment il fait pour ne pas s'écratigner, il doit avoir des plumes. Il plonge dans le buisson, de temps en temps il arrive à choper un moineau qui ne s'est pas suffisamment poussé. Éventuellement il sort du buisson, il fait le tour du buisson au cas où il y a un oiseau qui a une bête idée de s'envoler à ce moment-là. Mais cela dit, les oiseaux se passent le mot. Les mésanges qui sont assez nombreuses, il y en a toujours une qui, en général, qui va voir l'épervier, qui lance un petit cri très spécifique. Donc là, un cri sec, puissant. Tout le monde se met à l'abri. Là, ma compagne et moi, quand on voit qu'il n'y a plus d'oiseaux, sauf éventuellement au cœur d'un buisson, on se dit, tiens, est-ce que l'épervier est là? Et là, moi je prends l'appareil photo, et puis elle prend son balai. Je caricature un peu, mais voilà, ça, parfois ça marche. Et voilà, c'est un oiseau, donc quand même assez chouette. Sauf que, les nobles au Moyen-Âge, l'épervier, ils trouvent ça pas très valorisant. Donc l'épervier va être utilisé, mais plutôt par les femmes. Parce que bon, pour les femmes, ça suffit. C'est léger, ça vole au ras des buissons, bon, pour ces gens-là, ça va. Pour les nobles mâles, on préférera le faucon qui, lui, file droit et dans les airs. Voilà, c'est plus valorisant. Donc, il faut que je revienne au faucon. Voilà. Je vous laisse avec les éperviers. Il y a un petit faucon que vous pouvez connaître si vous parcourez la campagne. Mais ici, on dit bien qu'il fait un vol au Saint-Esprit. Alors, quand il fait ça, c'est qu'il vole sur place. Alors parfois, vous pouvez voir sa silhouette avec une queue très allongée, donc une silhouette très fine sur un poteau, sur un fil électrique, le bord de la route en pleine campagne. Éventuellement, vous allez le voir s'envoler, avec donc les ailes pointues, la queue relativement longue, et éventuellement, vous le verrez voler sur place. Je ne vous ai pas mis un film, mais il bat des ailes, hein. Comme ce que j'essaie de vous mimer, il vole sur place à peu près en regardant le sol, hein, donc pour repérer donc les petits rongeurs. Donc lui, il ne chasse pas d'oiseaux, il chasse des rongeurs. Donc je vous ai mis un petit bulot en référence. Et puis éventuellement, vous allez le voir glisser un petit peu. Oui, oui, non, puis si, ouais, allez, hop. Et éventuellement, il plonge. Voilà. Donc ça, c'est le quotidien du faucon cresseret. Et pourquoi j'insiste un peu sur le faucon cresseret? Et parce qu'on en a à la cathédrale. Alors, donc là, je me suis mis en haut de la tour hein, pour les photographier. Donc, voici madame. Et voilà monsieur. Vous voyez qu'il y a des détails dans le plumage qui, lorsqu'on est un petit peu exercé, permettent facilement de reconnaître les femelles et les mâles. Donc voilà un couple à la cathédrale. Je vous épargne les photos d'accouplement. Je me suis dit que dans cette assemblée, ce serait inconséquent. Et donc je passe directement à des photos moins érotiques qui montrent les petits. Voilà. Donc le faucon cresserelle niche dans des trous de boulin. Alors, je m'ose vous demander ce qu'est un trou de boulin, parce que comme je vous l'ai dit à la conférence précédente, si jamais vous ne me répondez pas, je serai un peu gêné. Donc voilà. Donc dans des trous de boulin, il y a suffisamment de profondeur et d'espace pour que le faucon cresserelle puisse nicher. Donc ça, c'est maman qui s'en va du nid. Ça, c'est des petits qui sont à 2-3 jours de l'envol dans une autre cavité, à quelque part dans la cathédrale. Voilà, ils ont déjà toutes leurs plumes, ils vont bientôt s'envoler. Ça, c'est au lycée Jacques-Cœur. Hein. Bon, voilà, j'ai rajouté la photo parce que je la trouvais mignonne. Voilà, ça, c'est un petit mulot, donc leur proie favorite. À l'intérieur du nid, je n'oserais y aller, mais j'ai un ami qui a eu cette opportunité d'observer donc un poussin de faucon cresserelle, donc plus jeune hein, que sur les photos précédentes. Normalement, il y a 3-4 petits par nichée. Là, vous voyez qu'il y a un petit et 3 œufs qui n'ont pas éclos. Peut-être que les parents ont bouffé trop de pesticides, je ne sais pas. Enfin là, le rendement n'est quand même pas terrible, terrible. J'ai entendu quelqu'un qui disait qu'il n'était pas beau. Je n'ose croire ce que j'ai entendu. Pauvre petit poussin. Il y a une particularité sur les faucons de la cathédrale. C'est que de temps en temps, ils ont la flemme d'aller dans la campagne récupérer des petites proies, style mulot, campagnol, etc. Pour revenir à la cathédrale, nourrir leurs petits. Bon, cela dit, aller au Val d'Oron, c'est pas si loin que ça, 2-3 coups d'aile, et puis voilà. Mais il y a plusieurs témoignages comme ça, comme quoi des faucons cresserelles qui nichent dans les villes se disent que finalement, les pigeonneaux, ça peut être pas mal non plus. Et voilà, maman cresserelle avec un pigeonneau à la cathédrale de Bourges. Hein. Voilà, j'ai fait les photos moi-même. Là, vous avez donc elle prépare le petit pigeonneau pour que ce soit quand même assez agréable à manger. Et puis voilà, elle l'offre en tartare à un de ses petits qui est sorti du nid mais qui n'est pas encore tout à fait indépendant et qui donc se laisse nourrir par les parents. Et voilà, deux jeunes sortis la veille du nid sur un des larmiers de la façade nord. Donc, les faucons cresserelles qui nichent à la cathédrale peuvent donner à leurs petits des rongeurs pris dans la cathédrale, mais également des pigeonneaux pris dans les environs. Et ici, c'est tellement exceptionnel que j'en ai fait un article qui a été publié dans une revue. On voit un faucon cresserelle prendre au nid le parent d'un martinet. Voilà. Donc, ça, c'est quand même déjà un peu plus compliqué à voir. Mais bon, ça arrive. Donc voilà, je vous recommande les faucons cresserelles. Ils mangent les pigeonneaux qui nous embêtent un petit peu à la cathédrale. Il y a d'autres oiseaux qui pourraient nicher, donc là c'est pas tellement mon sujet, je passe assez vite là-dessus. Pour juste vous dire quand même que un peu plus tard qu'au Moyen-Âge, en 1738, le bailli de Saint-Étienne-de-Bourges, je ne sais pas si vous étiez au courant de ça, a pris une ordonnance pour interdire qu'on tire sur les pigeons et qu'on jette des pierres lorsqu'ils nichaient à la cathédrale. C'est-à-dire que parmi les dégâts qu'il y a pu y avoir dans les sculptures et les vitraux de la cathédrale, il y a pu y avoir des jets de pierres par les sauvageons du coin qui s'amusaient à tirer sur alors les pigeons, les corbeaux, les moineaux, les hirondelles, vous pouvez imaginer donc toute une faune qui a plus ou moins disparu. J'ai également trouvé aux archives départementales les aveux d'un monsieur qui, au XIXe siècle, a fait la même chose en vandalisant l'hôtel Lallemand. Voilà, pas de commentaires, j'espère que dans l'assistance, il n'y a pas les descendants de monsieur Jean de Goix. Auquel cas, honte sur vous. Voilà, je préfère positiver sur mes petits faucons. Voilà, petits faucons à la sortie du nid. C'est quand même absolument merveilleux, n'est-ce pas? Voilà. Donc, nous arrivons à la fin. On pourrait après développer les connaissances scientifiques qui, petit à petit, à force d'observer les oiseaux, se sont développées au Moyen-Âge. Mais c'est un petit peu une autre histoire, donc je vais passer assez vite là-dessus. Il faudrait citer Aristote, il faudrait citer Albert le Grand, etc. etc. Petit à petit, on est arrivé à séparer plus ou moins totalement les animaux dans l'art sacré et les animaux dans le domaine scientifique. Donc sur la table, si vous voulez, vous pourrez consulter donc, le premier véritable livre d'ornithologie écrit en langue française, Pierre Blon, 1555, qui, alors au XVIe siècle, c'est pas encore tout à fait scientifique, c'est-à-dire que les grands auteurs, Léonard de Vinci, entre autres, et puis Gessner, Adovandi, Belon, etc., vont être surtout des compilateurs, c'est-à-dire qu'ils réunissent toutes les connaissances possibles sans forcément faire énormément de tri entre ce qui est scientifique, ce qui est avéré, des ouï-dire, des légendes, des superstitions. Voilà. C'est plutôt au XVIIe siècle qu'on fera le tri et qu'on rejettera dans l'obscurantisme tout ce qui n'est pas proprement scientifique. Mais donc si le bestiaire a largement quitté la sphère religieuse, l'art animalier continue de questionner notre rapport aux autres. Voilà, j'aime bien conclure là-dessus. Ça, c'est une œuvre d'un artiste de Bourges, dont le métier est par ailleurs d'être encadreur dans la plus grande vie. Et puis, pour le clin d'œil, voilà un aigle, voilà des chouettes représentées par un autre artiste. Voilà la survivance aujourd'hui de ces oiseaux qui habitaient nos cathédrales. Également dans les sculptures, donc je vous laisse identifier cet oiseau, et pour ma part, j'en ai fini. Mais si vous voulez voir de véritables rapaces en 3D, au muséum, au premier étage, oui, vous avez une salle qui leur est consacrée, mais c'est un autre sujet. Je vous remercie de votre attention.